Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Pierre.
Dans 8 jours, nous allons voter. La principale inconnue, c'est l'abstention, sans doute plus de 30%. Aujourd'hui, le président candidat tient son unique meeting. 30 000 personnes attendues à la Défense Arena. Et pour le second tour, se profile finalement le scénario que l'on avait ces dernières semaines mis en doute. Macron-Le Pen, 7,5 points les séparent dans les sondages pour le premier tour. Nous prendrons d'abord le pouls de cette élection qui approche à grands pas. Le président candidat qui, dans cette dernière ligne droite, se prend un gros bâton dans les roues. Le dossier McKinsey, ce gros cabinet américain facturant des millions d'euros pour faire le travail des administrations publiques. La majorité tente le service après-vente. Mais est-ce convaincant ? McKinsey, est-ce le Penelope Gate d'Emmanuel Macron ? Oui ou non ? On en parle. Et puis nous irons en Ukraine. La guerre toucherait-elle à sa fin ? Déserteurs, soldats fatigués qui parfois sabotent leur matériel. Le siège de Tchernobyl abandonné. Bien malin celui qui pourrait deviner ce qui se trame dans la tête de Poutine, dit en substance ce matin la ministre des Armées. La guerre en Ukraine, dernier sujet de discussion, c'est tout à l'heure. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. Nous sommes dans le sprint final. Dans 8 jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Alors qu'on a eu tous les scénarios de duel au second tour, c'est finalement ce modèle initial dont on parlait déjà l'été dernier qui revient, Macron-Le Pen. Dernier sondage IFOP, 28% contre 21,5. À l'époque, on se souvient d'un président qui était sûr de battre Marine Le Pen à plate couture et qui d'ailleurs avait été contrarié, souvenez-vous, par une montée de Valérie Pécresse à l'automne dernier. Mais l'époque a changé, les circonstances aussi. Peut-on dire aujourd'hui que le président sortant a peur d'un duel avec Marine Le Pen ?
Je crois que le duel, maintenant dans notre esprit à tous s'impose. Et on voit très bien qu'au fond, Marine Le Pen a bénéficié d'Éric Zemmour et que maintenant elle a résisté dans un premier stade à Éric Zemmour et que maintenant, bon, ce débat que soi-disant les Français n'attendaient pas est en train de se passer. Alors, moi je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de changements dans le personnage même de Marine Le Pen.
On l'a entendu dans le journal là, à l'instant.
Et je comprends qu'en effet, la Marine Le Pen d'aujourd'hui n'est plus du tout la Marine Le Pen de 2017. Et que par conséquent, il faudra sûrement que le discours du président de la République s'adapte à des positions plus solides de Marine Le Pen et aussi à un personnage qui, au fond, a résisté à tout, a montré qu'elle savait dominer la peur des gens qui partaient et qu'au contraire, elle réunissait autour d'elle. Alors, il reste que, mais ça peut-être on parlera, que le programme de Marine Le Pen reste un programme très radical, qu'elle arrive à le cacher par
elle arrive
sa
à l'humaniser
personne,
presque
oui. par sa propre personne, mais quand on le lit tel que Le Monde l'a publié par exemple cette semaine, in abstracto, c'est quand même un programme d'extrême droite.
Charles Villeneuve.
Moi je dirais que le discours de l'extrême droite n'est plus diabolisé. C'est le fait le plus principal pour moi. Alors qu'il y a 5 ans, Marine Le Pen apparaissait comme une incompétente extrémiste, on se souvient de son débat, elle se pose aujourd'hui en experte modérée, plus acceptable, plus légitime, plus raisonnable qu'un Éric Zemmour qui lui sert de repoussoir et attire vers elle des voix modérées. Mmh. Catherine Ney avait rapporté notamment l'une de ses conversations avec Jean-Marie Le Pen et qui lui avait dit, mais il avait très bien vu,
que Zemmour... Bah, il vous cite quand même, oui, c'est élégant.
Oui.
Ben voilà.
Oui.
Je peux continuer ?
Oui.
Merci.
Je te remercie.
Ok. Et je trouve que, pour compléter ce qu'a dit Michel Cotta, elle a su imposer un thème comme le principal enjeu pris en compte par une majorité de Français, 59%, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, les frustrations, les déceptions, les colères qu'Emmanuel Macron et sa politique ont pu provoquer. Donc, au dégagisme cool dont Emmanuel Macron a bénéficié en 2017, peut succéder le dégagisme dur contre le président sortant.
Catherine Ney, puisque vous avez été citée.
Oui, c'est vrai que Marine Le Pen a changé d'image. D'ailleurs,
la part des Français qui ont une mauvaise image d'elle a beaucoup reculé. Elles en sont plus que 34%, alors qu'Éric Zemmour, c'est la personnalité qui aujourd'hui a le plus de rejet, plus de 54%. Et c'est vrai que le père, quand j'avais été le voir, Jean-Marie Le Pen, m'avait dit, mais Zemmour pense qu'il va tuer Marine, or il est en train peut-être de l'aider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'extrême droite, c'est lui, c'est plus Marine Le Pen. Donc, elle-même, évidemment, c'est beaucoup
dédiabolisée. Mais alors, elle, c'est quoi elle, vous la mettez où, mais sur le curseur
elle, ah ben, elle, c'est
on
une
pas
femme...
On ne la met pas à gauche,
non, non, pas à gauche mais enfin, elle a mis tellement d'eau dans son vin sur l'Europe, sur les retraites, sur l'immigration. Et puis, elle a vraiment profité de son effort de dédiabolisation. Et puis, on s'est aperçu que c'était une femme résiliente, alors qu'on se disait, elle est peut-être fragile. Le débat qu'elle avait eu avec Emmanuel Macron, on se disait, elle semblait...
Le débat d'entre-deux-tours.
Le débat de l'entre-deux-tours. Mmh. Bon, là, elle a travaillé, elle ne fait plus peur, elle est meilleure oratrice, elle s'est féminisée, elle n'a plus ses cheveux courts, elle est plus acceptable et on la trouve même, on arrive même à la trouver sympathique. Dire qu'on la trouve compétente, c'est autre chose. Donc, s'il y a un débat avec Emmanuel Macron, si c'est le débat dont les Français ne voulaient plus, moi, je pense que cette fois-ci, Emmanuel Macron ne fera pas les 66% qu'il avait fait contre elle il y a 5 ans.
Vous voyez que le cheveu compte en politique. Je vous le disais, Catherine Ney, vous venez de dire que les cheveux, voilà, ça avait changé le look de Marine Le Pen. Voilà. Ben voilà. Gérard Carrérou.
Je vais essayer de répondre après mes camarades dont je partage une bonne partie des analyses. Je vais essayer de donner la mienne. Question numéro 1. Emmanuel Macron peut-il perdre la prochaine élection présidentielle? Ma réponse, oui, mais il reste favori. Il peut perdre, mais il reste favori.
C'est ce que dit Édouard Philippe, ça.
C'est ce que je dis moi, en tout cas. Deuxième, je sais qu'Édouard Philippe dit ça, il nous l'avait même dit il y a quelques mois.
Quand vous étiez allé le voir au Havre.
Il nous l'avait dit. Donc,
vous savez tout.
Deuxième question, Marine Le Pen peut-elle gagner? Oui, mais ce n'est pas sûr. Je dirais simplement qu'on est passé avec elle de l'idée que c'était absolument impossible à l'idée que c'est, sinon probable, du moins, c'est improbable. C'est improbable. Je ne dis pas que c'est probable, mais c'est improbable.
J'essaie de vous suivre. Bon. Oui. Alors,
je vais simplement préciser les deux positions. Pourquoi Emmanuel Macron pourrait-il perdre? Il a un coefficient de détestation très fort dans le pays profond, qui reste, et ça, beaucoup de mes confrères, beaucoup de gens qui ont sillonné le disent. Deuxième point, il a quand même trop joué, on peut jouer, mais il y a des limites, il a trop joué avec la gestion de la Covid et maintenant avec la gestion de la crise de la guerre d'Ukraine. Troisièmement, il a cru peut-être qu'on pouvait se passer de campagne comme si c'était une simple reconduction ou une simple prolongation. Ça, c'est les raisons qui font qu'ils peuvent être battus. Et pourquoi je dis que c'est improbable, mais possible que Marine Le Pen soit élue? Pour, premièrement, je ne reviens pas là-dessus, ce qu'a dit Michel ou Catherine, l'image, son image personnelle et sa campagne, sa force de campagne. La première fois depuis qu'elle fait campagne, elle a des renforts politiques. Son problème essentiel, c'est, à part le fait de ne pas être bonne dans le débat, était qu'elle n'avait aucun renfort pour le deuxième tour. Elle a aujourd'hui des renforts politiques. Il y a un électorat Zemmour qui soit autour de 10, c'est quand même 10 points, ça compte. Elle a un électorat des Républicains sur lequel elle peut mordre dans des proportions que je ne connais pas. Et elle a un électorat d'extrême-gauche sur lequel elle peut mordre également. Donc, toutes ces raisons font qu'elle peut, effectivement, ce n'est plus improbable qu'elle gagne.
Alors, Michel. Il y a une nuance que j'apporte, c'est que quand même, derrière la physionomie de la personne, dont on a dit tous à quel point elle avait profité de sa dédiabolisation, il y a quand même un programme. Et quand on voit le programme, c'est-à-dire avec le premier coup sur le référendum sur l'immigration, ça commence par le référendum sur l'immigration et ça se termine tout de même par une sortie qui ne dirait pas son nom de l'Union européenne, parce qu'à partir du moment où on critique la loi sur-européenne par rapport aux lois nationales, on sort de l'Europe. Bon. Donc quand on lit son programme, on s'aperçoit quand même que vis-à-vis des électeurs de Mélenchon, il y a énormément de différences. Il n'y a pas seulement le côté populaire en commun, mais il y a aussi vraiment tous les programmes d'immigration qui quand même les dépasse et les divise beaucoup plus qu'on ne croit. Bref, je ne pense pas que le brun et le rouge puissent se rencontrer dans cette élection.
Mais qui lit les programmes électoraux, Michel ? Qui va lire les programmes ? L'élection, la caractéristique... Non mais laisse-moi finir juste ma remarque. La caractéristique de l'élection, c'est la personnalisation extrêmement forte autour des personnes. Mmh. C'est ce qui fait le bonheur des uns et le malheur des autres.
Voilà.
Le malheur de Mme Pécresse et le bonheur pendant un certain temps de Zemmour et aujourd'hui de Marine Le Pen. Donc les programmes, c'est, je dirais peut-être 5% de l'électorat qui les lit. Le reste, c'est d'autres choses.
Mais moi, je pense aussi qu'il y a un cocktail explosif qui fait de cette élection présidentielle une élection peu ordinaire. Est beaucoup plus extraordinaire que les précédentes. Parce que d'abord, on n'a pas vu venir les Gilets jaunes, qui sont très populaires aujourd'hui. 49% des Français s'y retrouvent, de toute façon. On n'a pas vu venir la crise sanitaire. On n'a pas vu davantage venir la guerre, qui est à nos portes aujourd'hui. Et qui a fait surgir la menace du nucléaire aussi. Mmh. Et ce cocktail explosif fait, et je retombe sur mes pattes, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une élection beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, notamment pour le sortant.
Une première pause dans le débat des grandes voix. On revient dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière ligne droite avant ce premier tour de l'élection présidentielle. On en parle dans les grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrou. Gérard, on a ce grand meeting d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Il va en dire peut-être un peu plus sur sa tactique. On sait que c'est un seul meeting d'ailleurs.
Oui, non, mais
30 000 personnes attendues.
Il attend probablement beaucoup de ce meeting et je pense qu'effectivement ça va être très intéressant. Mais comme c'est à 4h de l'après-midi, je ne peux pas vous dire comment il va se comporter dans ce meeting.
Mais par contre, ce que je peux vous dire,
c'est pourquoi il est...
Pour des questions de temps de parole.
Oui. C'est ça. Pourquoi il est reparti dans cette offensive extraordinairement forte contre l'extrême droite, hein, assimilant d'ailleurs le tandem Zemmour, Le Pen. C'est quand même une preuve de faiblesse. Qu'est-ce qu'il fait là, en faisant ça ? Il fait appel à la plus vieille, au plus vieil épouvantail créé par la gauche depuis 30 ans. C'est-à-dire, attention, l'extrême droite. Attention. Alors, de toute façon, l'extrême droite, aujourd'hui, on la trouve partout. Tout le monde est plus ou moins d'extrême droite. Il suffit de dire qu'on aime le drapeau français ou je ne sais
pas. On est contre l'immigration.
On est d'extrême droite. Mais je trouve étonnant que le président de la République, qui nous avait dit en 2017, d'ailleurs, qu'avec lui, les extrêmes, ça va disparaître naturellement dans la prospérité, etc., tout d'un coup nous fait le jeu de rempart, c'est-à-dire en fait le vieux rempart républicain, et tout de suite on voit qui s'engouffrer là-dedans. On voit Mennucci, qui est le directeur de cabinet de Madame Hidalgo, qui chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur cette antenne nous dit bien sûr les républicains vont faire la différence. Autrement dit, les républicains, heureusement qu'il y en a moins qu'autrefois, hein, il y en a 2% selon les sondages qui sont dans cette ligne politique.
Oui, mais si.
Non, je trouve que ce qui, quand même, je pense que le président n'a pas mesuré qu'une campagne, même quand on est président et même quand on préside l'Union européenne, et même que c'est vrai, et c'est un honneur, une tâche difficile de discuter avec Poutine, parce que ça le met au-dessus du lot, c'est sûr. Mais là, à la fois sa première expérience, sa première visite des Français à Poissy, c'était organisé par son ami Carl Olive, c'était pas une campagne, quoi. C'était trop facile. C'était les questions étaient préparées. Enfin bon. Et puis là maintenant, ce grand meeting, il a choisi la salle la plus vaste à Paris. 40 000, peut-être sera-t-elle pleine ou pas.
La Défense Arena.
Là, bon, peut-être fera-t-il un bon discours. Mais comme il commence sa campagne à un moment où le temps de parole fait que son meeting ne sera pas retransmis, les Français ne sauront pas. Parce que quelquefois, ça peut impressionner les gens de voir une liesse militante et tout ça. Donc là, ça ne sert presque à rien. D'ailleurs, on a prévu qu'il ne parlerait qu'une heure. Ça serait bien la première fois qu'il parle aussi peu. Mais voilà, donc il faut qu'il soit quand même que son discours soit bon.
Les images vont être prises de toute façon
très
sur
peu,
les chaînes infos.
Mais très peu.
C'est juste qu'on ne va pas passer le discours en direct. Non.
Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que s'il brandit l'épouvantail de l'extrême droite, c'est pour resserrer surtout les rangs de ses troupes. Parce qu'ils sont agités de doutes et de craintes. Et c'est un discours, justement, qui surgit de La République En Marche à l'heure actuelle, beaucoup plus défensif qu'offensif. Et je pense que ce meeting est fait pour ça, pour relancer la machine offensive.
Mais on peut dire qu'on fait exister le péril d'extrême droite, mais on ne peut pas ignorer qu'il existe aujourd'hui plus que ce qu'il a jamais existé. Parce que quand on dit Marine Le Pen a des réservoirs de voix, effectivement, c'est ça qui change. C'est que le public de l'extrême droite a quand même, si on additionne Éric Zemmour et Marine Le Pen, ce public d'extrême droite est effectivement plus important qu'il ne l'a jamais été. Donc, on ne peut pas dire que ce danger n'existe pas ou qu'il est inventé par Macron pour retrouver ses troupes. Non, le danger existe vraiment. Le danger existe vraiment. Et le danger d'une droite, y compris d'une droite républicaine, qui n'est pas très au fait, qui ne sait pas aujourd'hui entre qui elle choisira demain, si elle choisira l'extrême droite, Marine Le Pen, si elle choisira le macronisme, eh bien ça, ça change aussi la
Michel, je ne suis pas d'accord. Le danger, tu parles d'extrême droite. C'est toujours la vieille terminologie.
Non, ce n'est pas la terminologie.
C'est un déni de l'évolution de la France vers la droite. Il y a une majorité sociologique aujourd'hui de l'électorat français à droite.
Oui, mais
du danger de l'extrême droite, ça me paraît totalement obsolète par rapport à la réalité française. Ce n'est pas des électeurs d'extrême droite, c'est des électeurs mécontents, des électeurs qui n'en peuvent plus de l'insécurité, des électeurs qui n'en peuvent plus d'une certaine forme de flux migratoire, etc. C'est pas des gens d'extrême droite, c'est un abus de langage.
La preuve, parce que si vous regardez Marine Le Pen, qui garde après tout son socle de voix qu'elle avait il y a 5 ans, qu'elle a un peu amélioré. Mais quand vous regardez ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zemmour plus Pécresse, c'est 20%, ce sont les voix de Fillon. Donc, on peut penser que dans les voix de Fillon, il y en a 10% qui, sans être des gens d'extrême droite, sont prêts à voter Zemmour, si ce sont ceux-là. Et donc, c'est ça, c'est ce que tu dis, Gérard. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite qui n'était pas fasciste, qui, sur les thèmes de l'immigration, de l'insécurité,
Ils sont mécontents de la situation actuelle.
Je trouve que vous sous-estimez beaucoup le problème, le domaine sur lequel Marine Le Pen a gagné, c'est sur le pouvoir d'achat. Au fond, elle a laissé Éric Zemmour.
Non, on en a parlé.
Elle a laissé Éric Zemmour. Au fond, capitaliser et dire tout ce qu'elle avait dit, elle n'a pas de preuve à donner là-dessus.
Sur le régalien.
En revanche, c'est l'alliance des deux, effectivement, qui pose problème. C'est l'alliance des deux courants.
Qui pose problème dans quel sens ?
Qui pose problème dans l'augmentation du volume de la droite. On le sait.
Oui. Ah oui. Mais Michel, ce qui est
sous-jacent... Qui pose problème à la gauche, surtout.
Problème à la gauche, on est d'accord. Je ne dis pas que la gauche n'en a pas.
Michel...
D'ailleurs, je suis tenté que la gauche existe.
En attendant, on a quand même Jean-Luc Mélenchon à 15%.
Oui, donc, oui. Ce qui est sous-estimé, ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la justice, la police, la défense, c'est le président de la République lui-même, on l'a vu encore avec l'affaire Corse. Ce qui est sous-estimé, il y a une prime au cocktail Molotov qui a été donnée d'entrée de la négociation, etc. Et puis il y a Sevran, il y a Aulnay, il y a tout ça. Tout ça ressurgit.
C'est pas nouveau.
Et les Républicains, c'est pas nouveau, mais ce n'est pas réglé. De toute façon, il y a une faiblesse du régalien.
Vous rappelez 2002 avec au dernier moment.
Non, mais c'est marrant. Tu prends la technique de l'extrême gauche.
Mais on disait pas que c'est l'extrême droite.
Sans arrêt. Je finis.
Oui.
Je dis que sur ce plan-là, il y a eu une grave négligence, Michel. Là-dessus, tu es d'accord. L'islamo-gauchisme qui caractérise notamment Mélenchon, je ne l'ai pas inventé.
Catherine
Ney.
Parce que quand même, il a encore des sondages qui sont relativement hauts, le président.
C'est pour ça que je disais qu'il reste le favori.
Et d'ailleurs, on voit où est-ce qu'il a des réservoirs de gens qui voteront pour lui dès le premier tour. Eh bien, je l'ai constaté en discutant avec les commerçants, les coiffeurs et tout ça. Ce sont tous ces gens qui lui savent gré, pendant le Covid, d'avoir été aidés et qui disent, sans lui, on ne serait plus là.
On serait mort.
Et là, oui, on serait mort. Et ça, je pense qu'il a un réservoir de voix.
De classe moyenne.
De classe moyenne.
Et ça, le gouvernement fait un très bon service après-vente là-dessus. Hein, sur
il a raison,
sujet-là.
Parce que c'est vrai, ça, on l'entend.
Souvenez-vous. Ouais, ben on va en parler d'ailleurs parce qu'on va parler de l'affaire McKinsey, mais Amélie de Montchalin, en milieu de semaine, effectivement, saute justement d'un sujet à l'autre en disant, bah oui, peut-être McKinsey, mais enfin, en attendant, on a aussi été aux côtés des Français avec les PGE et avec le quoi qu'il en coûte. 10h27, nouvelle pause et on revient avec le débat des grandes voix, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau des Grandes Voix avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrère. C'est une polémique dont Emmanuel Macron se serait bien passé. Selon la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets extérieurs, le gouvernement a dépensé près d'un milliard d'euros en 2021. Pourquoi ? Pour s'offrir les services de cabinets de conseil privés qui l'ont aidé notamment dans la gestion de l'épidémie. Le cabinet McKinsey est particulièrement pointé du doigt, accusé par la commission de ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France, ce dont il se défend. Cette polémique McKinsey, est-ce que c'est l'affaire Pénélope d'Emmanuel Macron, Gérard Carrère?
Pour l'instant, je réponds franchement non. Il y a effectivement un problème à élucider, une affaire, disons une affaire McKinsey. Il n'y a pas pour l'instant un scandale McKinsey ou un scandale d'État ou un Penelope Gate.
Même l'opposition dit que c'est un scandale d'État.
Non, voilà. Je reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est le rapport du Sénat. S'il n'y avait pas eu ce rapport sénatorial, on n'en aurait pratiquement pas parlé à ce stade de la campagne. Alors, le rapport, il dit deux choses. En fait, il y a un problème global et puis il y a un problème particulier. Le problème global, je n'y reviens que d'un mot, c'est de savoir si on doit remplacer le travail de hauts fonctionnaires sur un certain nombre de sujets par le renfort d'un certain nombre de cabinets de conseil. Réponse d'un certain nombre de gens, ça existe partout, dans tous les pays d'Europe, c'est vrai. Il y en a même qui en font plus que nous, c'est vrai. Ça vient des États-Unis, et dans le privé, tout le monde fait, enfin, dans toutes les grosses boîtes, on fait ça, etc. Autrement dit, là, il n'y a pas de scandale, il y a une pratique. Alors, on peut s'interroger, on peut dire, il serait quand même intéressant de former des hauts fonctionnaires français pour qu'on n'ait pas besoin de donner des millions. Bon, ça c'est le premier point. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse à une semaine des élections. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a eu une prise d'intérêt illégale. Autrement dit, on sait, et ça c'est su, on le sait, on sait qu'un certain nombre de gens qui travaillent pour McKinsey ont travaillé pour la campagne présidentielle de 2017 d'Emmanuel Macron. Ils ont travaillé. On parle d'une vingtaine de collaborateurs. Oui, alors bon, après tout, ils ont le droit. On peut le soir, si on a envie, aller travailler pour un des candidats. C'est pas interdit. Mais est-ce qu'ils ont travaillé rémunéré ou pas? Apparemment, ils n'ont pas touché d'argent. Ils n'ont pas été payés. Ah bon, ben c'est très bien. Ils ont fait ça bénévolement. Au fait, c'est sympathique. Sauf que, y a-t-il eu après échange de bons procédés? Autrement dit, on va vous récompenser de votre bon travail et on va vous accorder un certain nombre de dossiers qu'on a à traiter. Oui. D'où, si c'est le cas, si la réponse est oui, il y a eu ça, c'est prise illégale d'intérêt et ça nécessiterait que le parquet national financier, qui s'était promptement ému de l'affaire Fillon, s'émeuve dans les prochains jours, là, dans la semaine, s'émeuve de l'affaire. Pour l'instant, il n'y a aucune réaction. Il est je ne sais pas où il est d'ailleurs, le parquet national financier. Peut-être qu'il est en vacances de Pâques déjà. Mais en tout cas, aucune émotion. Mais il peut y avoir
d'autres. Mais il fonctionne même pendant les vacances
mais
de Pâques.
Mais le président de la République, et je termine là-dessus, a dit « Attendez, si on veut, on n'a qu'à porter plainte au pénal. J'attends, moi, que quelqu'un porte plainte au pénal. Et puis, il y aura une enquête. »
Charles Villeneuve.
Mais moi, je vais prendre juste un exemple que j'ai puisé dans les 400 pages que m'a fourni le service politique d'Europe 1, d'ailleurs, très obligeamment et avec beaucoup de courtoisie. Je vais prendre un exemple pratique. Justement, la politique de vaccination. Il y a eu 4 conseillers de McKinsey qui ont travaillé, imaginez-vous, pour essayer de mettre d'accord les fonctionnaires entre eux pour que nous puissions être vaccinés. Il a fallu 4 secours, donc, de McKinsey pour que nous puissions être vaccinés. Et la coordination entre toutes les officines posait problème. Et pour déclencher cette politique de vaccination, il a fallu faire signer la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la santé, la Direction générale de la cohésion sociale, qui s'occupe des EHPAD notamment, la dotation globale du fonctionnement de la santé, le responsable de la vaccination, le responsable de la logistique de la vaccination, le secrétaire général de la Santé, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et enfin le ministre. Et le ministre sont tous tombés d'accord parce que, évidemment, les conseillers de McKinsey leur ont fait signer le protocole. On a pu commencer la vaccination. Mais c'est invraisemblable. Alors que nous avons des inspecteurs généraux des finances.
Bien sûr.
Nous avons des hauts fonctionnaires à la Cour des comptes qui ont fait l'ENA, comme le président de la République d'ailleurs, qui est un inspecteur des finances. Je ne parle pas du Conseil d'État, plus tous les spécialistes qui conseillent les sénateurs, les députés.
Que font ces gens ?
Nous avons tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que nous dévaluons le service public par cette politique. C'est ça la réalité. Et on marche vers une altération même de son esprit public.
Mais moi, je crois quand même que on voit ça dans toutes les grandes boîtes, au fond, que ce soit Lagardère, Bouygues, Bolloré, etc. Il arrive qu'il faille demander des audits ou des inclusions, des exclusions.
Oui, mais là, on parle
des études ou des.
Oui, justement.
Oui. On parle de l'État.
Bon, alors l'administration, elle administre. S'il faut changer à un moment donné, ou s'il faut avoir un autre point de vue, s'il faut donner des conseils, c'est normal qu'on fasse appel à des conseillers. Et d'ailleurs, je vois que le
mais on
le
peut
patron,
puiser ses conseillers les patrons, dans les grands corps
non,
de l'État.
Non, parce que quand les
ah
gens
non,
sont
ah bon.
En, non, parce
on
que
en a 5
gens,
millions.
D'accord, mais
de
quand les gens sont dans une politique,
deux fois plus que les Allemands.
Que de temps en temps, il faut les aider à changer de politique et que l'imagination n'est pas forcément dans la gestion.
Oui, mais donc, ça moi, coûte de l'argent.
Alors,
c'est nous qui payons,
oui,
hein, mais
je signale que toutes les communautés urbaines, que les régions font encore plus appel, et c'est ce que dit le patron des sociétés de conseil, qui dit on s'est bien gardé
oui,
de dire
bien sûr,
qu'en région,
le lobbyiste,
c'est
le
plus
lobbyiste
important.
Des
et ensuite, je voudrais prendre l'exemple. L'exemple
le
que tu prends, il y a deux exemples.
Non, mais c'est,
sur
vrai,
lesquels...
c'est vrai que les régions dépensent beaucoup d'argent dans les cabinets de conseil.
Et alors, mais ça excuse le fait.
Mais non, non,
mais c'est normal.
Non, voilà. Non, mais je dis,
c'est
tout le monde est coupable.
C'est pas normal.
Oui,
vous
tout le monde
bien.
Est coupable. Voilà.
Vous
voilà.
Savez
c'est
très bien
Michel, c'est pour ça que je vous entends plus. Qui veut. Michel,
j'ai dit, Michel, que c'était utilisé par la plupart des États européens. Et effectivement, on a des chiffres que j'ai vus, donc je ne vais pas vous les aligner. Et on a dit également que c'était utilisé. Mais la question, c'est est-ce que ça a été judicieusement utilisé, effectivement, avec les enquêtes McKinsey,
alors,
étant donné que...
Michel et ensuite Catherine,
oui,
s'il vous plaît.
Je voudrais la comparaison avec le Penelope Gate me semble quand même exagérée, et même ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Penelope Gate, Macron n'a pas mis de l'argent directement.
C'est juste une question de calendrier.
Oui, tout à fait. Macron n'a pas mis de l'argent dans sa poche, etc. Le problème est de savoir effectivement s'il y a une réciprocité indue.
J'ai parlé de Penelope Gate en tant qu'élément de calendrier dans la campagne présidentielle et pas sur le fond. Voilà.
Enfin, encore que c'est arrivé pour Fillon beaucoup plus tôt.
Fin janvier.
Donc là, évidemment, le mauvais truc, c'est que c'est la semaine qui précède. Bon, moi, je crois quand même que l'administration fiscale est assez, pour le coup, puissante en France pour déterminer si, oui ou non, McKinsey a payé ses impôts. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, on ne peut pas à la fois dire que Macron, on lui sait gré d'avoir bien géré cet épisode de vaccination, alors qu'effectivement, c'est sur cette vaccination que les conseils de McKinsey ont été reçus.
Non, mais il y a eu un retour d'ascenseur ou pas ? C'est toute la question. Est-ce qu'il y a eu un retour ? J'ai travaillé pour vous gratuitement.
Mais attendez,
il y a des marchés, pardon.
Vous avez posé la question, Gérard Carreau, et on aura peut-être un élément de réponse dans les semaines qui viennent. Mais la question, c'est est-ce que c'est normal ou pas normal ? Ça sort maintenant. C'est ce qu'on disait avec Michel Cotta. Ça sort à une semaine du premier tour.
Oui,
est-ce que ce n'est pas étrange ?
Et puis la France n'en a pas l'apanage. Parce qu'en Allemagne, c'était un député qui disait « Rien ne se passe en Allemagne sans qu'on ait sollicité les conseils de McKinsey. » Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'emprise de McKinsey sur les gouvernements, européens, dont les deux plus grandes puissances européennes. Et donc, c'est au détriment de la puissance publique. C'est même, je veux dire, c'est antidémocratique, puisqu'on ne fait plus travailler les gens qui sont, qui sont issus de la haute administration, formés pour ça. Voilà. Non, donc, c'est un vrai problème.
Mais tout ça, c'est du baratin. Quand tu cites l'exemple, de toute façon, du ministère de la Santé, où il faut faire je ne sais combien d'étages pour mettre d'accord les hauts fonctionnaires, c'est un exemple pratique.
Il faut une réforme de l'État. Ça fait des années qu'on en parle, des années que tous les gouvernements en parlent, et des années que personne...
C'est notre job.
C'est une chose, prise illégale d'intérêt, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas globaliser le truc.
C'est tentaculaire. Il y a la prise illégale peut-être d'intérêt, il y a le fait que McKinsey se substitue au service public, et il y a le fait que ça arrive à une semaine du premier tour.
Oui, et il faut dire aussi que quelquefois les choses sont tellement compliquées qu'on demande à McKinsey d'y voir clair, notamment dans la réforme des retraites à points. On avait demandé à McKinsey d'y voir ce qu'il pouvait se passer, ça a été... Et donc la réforme n'a pas eu lieu, mais ça a quand même coûté près d'un million d'euros.
Allez, une pause et on revient sur le sujet juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
38e jour de guerre en Ukraine, on revient avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. 38e jour de guerre en Ukraine, les habitants de Mariupol, ville martyre, vont tenter de se faire évacuer aujourd'hui après plusieurs tentatives échouées. Sur le terrain, l'armée russe a annoncé se retirer de Tchernobyl après 5 semaines d'occupation. Florence Parly, la ministre des Armées, le redit encore ce matin dans une interview au Parisien. Personne n'est dans le cerveau du président Poutine. Il est difficile de dire ce qui se prépare. Dans quel scénario est-on ? L'armée russe est-elle en train de décroître ? Ou est-ce qu'au contraire, Charles Villeneuve, on doit s'attendre au pire sur le terrain ?
Non, l'armée russe se redéploie. Ils sont rentrés dans la phase de l'économie des forces. On ne laisse pas sur le front pendant 34 jours, je crois, 38 jours, des gens qui vont tous les jours, toutes les heures, monter à l'assaut, se défendre, etc. L'armée russe a totalement sous-estimé la résistance farouche de l'armée ukrainienne et des unités territoriales. Mmh. L'armée russe, et Vladimir Poutine a fait une erreur, je l'ai comparé, si vous voulez, à la première guerre d'Irak en 90-91, lorsque le père Bush, le père de son...
Le président Bush
a déclenché Tempête du désert, à la tête de laquelle il avait mis le général Schwarzkopf. Eh bien, pour 17 000 km² du Koweït, il a envoyé 500 000 hommes. Mmh. Il a réglé l'affaire en moins d'un mois, sans destituer d'ailleurs Saddam Hussein. Rappelez-vous, il y avait 15 000 soldats français qui se sont joints à cette armée. Et là, il a envoyé 200 000 hommes. Donc aujourd'hui, évidemment, il patine. Heureusement d'ailleurs qu'il patine. Mais enfin, il n'empêche qu'il commet un certain nombre de crimes quasiment contre l'humanité indéniables, notamment avec Mariupol, où encore dernièrement, il y a eu un convoi d'ambulances transportant des enfants qui a été pris pour cible. Il n'a pas pu sortir de la ville. Tout ça a été établi, photographié, et dans les photos satellites, etc. Donc, il patine simplement pour se désengager, pour redéployer ses forces. Madame Parly, la ministre de la Défense, le dit très bien dans l'interview du Parisien ce matin. Eh bien, il s'agit de tirer, parce que quand vous bougez, vous vous fragilisez. Et dès lors, les barrages d'artillerie sont faits pour ça, pour protéger ce redéploiement. Il ne bat pas en retraite, il se redéploie. Il se recentre sur une province qui s'appelle le Donbass et qu'il ne maîtrise pas complètement. Et il espère fermer sa nasse, si vous voulez, en entourant la résistance et les unités territoriales et l'armée ukrainienne dans le Donbass. C'est seulement à partir de là que peut-être, mais d'ailleurs Madame Parly le dit aussi là encore très bien, c'est que Poutine ne veut pas négocier. Parce qu'il n'est pas en position de négocier. On ne négocie que quand on est en position de force.
Or, il ne l'est
ce
pas.
Qui manque à la négociation à l'heure actuelle, pour moi, c'est l'acteur principal, c'est les États-Unis. Si les États-Unis ne rentrent pas dans le couloir, en quelque sorte, diplomatique, il n'y aura pas de véritable négociation.
Gérard Carrérou.
Pour l'instant, il me semble, après avoir entendu les grands experts dans le domaine, il me semble que la guerre va durer encore un certain nombre de semaines. Autrement dit, l'idée qu'on va conclure un accord, même si Zelensky, le président ukrainien, a mis sur la table le mot de neutralisation, qui est le mot fondamental, très important, la neutralisation de l'Ukraine, mais on ne voit pas très bien comment. Parce que, ou c'est une neutralisation qui consiste à fabriquer une sorte d'OTAN bis, et dans ce cas-là, les Russes n'en voudront pas. Donc, c'est très compliqué. Mais ce qui me paraît, par contre, à court terme, très ennuyeux, très embêtant pour la paix, c'est un certain nombre, effectivement, de gens qui qui, sciemment ou inconsciemment, mettent de l'huile sur le feu. Je veux dire par là que je citerai simplement l'ambassadeur Gordon Montagne, qui a été secrétaire du Quai d'Orsay, secrétaire général du Quai d'Orsay, qui disait, à propos de Biden et des déclarations de Biden, il fait des surenchères verbales à usage domestique. Autrement dit, Biden, qui est un président faible et très faible sur le plan de son opinion publique américaine, utilise un peu. D'autre part, en plus, il utilise ça pour faire aussi le commis voyageur. Il propose son pétrole, il propose son gaz, etc.
Bon, puis il y a les midterms qui arrivent.
Et la guerre, et c'est aussi Gordon Montagne qui le dit, elle est indolore pour les États-Unis. C'est une guerre qui n'est pas indolore pour les Russes, bien sûr, puisqu'ils sont les agresseurs, et en même temps, ils sont c'est eux qui subissent aussi la guerre, mais elle n'est pas indolore pour l'Europe.
Mais ça peut leur rapporter beaucoup d'argent.
Non, mais les seuls bénéficiaires, si on est objectif, comme on dit objectivement, les seuls bénéficiaires jusqu'à ce point de la guerre, ce sont les Américains.
Donc ils ont envie qu'elle dure.
Sur le plan stratégique, géopolitique et sur le plan commercial, ont effectivement un certain nombre d'avantages à tirer. Donc la guerre va durer. Il faut se faire à cette idée que la guerre va enjamber notre élection présidentielle et sans doute aussi nos élections législatives.
C'est extrêmement cynique, mais bon.
Elle va d'autant plus durer qu'on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter aujourd'hui. Ce qu'on disait tout là, pourquoi s'arrêterait-il ? Il pourrait, à la rigueur, ayant pris un gros avantage sur l'Ukraine, dire « bon, bah, maintenant, on laisse tomber ». On prend le Donbass et toute la bande de l'Est et on fait une sorte de partition et le reste est neutre. Mais tant qu'il n'est pas arrivé à ça,
mais c'est encore une hypothèse.
Je persiste
à
ne pas comprendre la stratégie. Je persiste à pas qui consiste à dévaster des villes qu'on veut par ailleurs plus tard acquérir. Ça veut dire quoi ? On dévaste Mariupol
pour les reconstruire.
Pour les reconstruire, parce que les Russes sont en mesure de les reconstruire. Quel est le pourquoi est-ce que les Russes ne savent que détruire, au fond ? Pourquoi est-ce que...
Parce que la violence a toujours été leur mode d'expression.
Oui, enfin, il y aurait d'autres...
Regarde comment Poutine a existé en Tchétchénie, à Alep, en Syrie, voilà.
D'accord, c'est les limites de sa stratégie.
Ouais,
les limites de sa stratégie, c'est la destruction totale. Bon, c'est quand même... effectivement,
Stalingrad, c'était ça aussi.
On ne pensait pas que le 21e siècle verrait ça. Ça contribue d'ailleurs beaucoup au moral des Français. Aussi.
Mais ce que disait Gérard est très vrai,
Charles Villeneuve.
C'est que s'il y a un enseignement déjà qu'on peut tirer de cette guerre, c'est que l'Amérique a démontré que la défense de l'Europe était impensable et reste impensable sans elle. Et cette guerre a sorti de son coma profond l'OTAN, et nous-mêmes, nous en faisons partie, et finalement, nous sommes en train de nous féliciter d'en faire partie, parce que nous n'avons pas, et c'est la raison pour laquelle le nouveau chef d'état-major a été nommé, le général Thierry Burgard, nous ne sommes pas capables de poursuivre ou de soutenir un combat à haute intensité.
10h49, une dernière pause dans le débat des grandes voix et on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie du débat des grandes voix avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Autre arme, j'allais dire, de Vladimir Poutine, au-delà du terrain, c'est l'arme diplomatique et l'arme diplomatique économique, puisque ça ne vous a pas échappé. Depuis hier, Vladimir Poutine, pour les livraisons de gaz, demande non plus un paiement en euros, Gérard Carrérou, mais un paiement en roubles.
Oui, mais alors là, ça me fait un peu...
Là, ça vous fait rire.
Ça me fait sourire un peu, parce qu'il y a quand même une attitude étrange des Russes sur l'affaire du pétrole et du gaz. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous rappeliez tout à l'heure au 38e jour de guerre.
Oui.
Depuis 38 jours, le gaz russe continue de couler, et notamment
en Ukraine,
où 12 millions de foyers sont alimentés. Si ces pauvres gens, vraiment, là je ne me moque pas d'eux, je dis franchement, si ces pauvres gens ont quand même encore un peu de chauffage ici ou là, c'est parce que le gaz russe continue. Donc la menace, il joue avec nous, là, il joue avec nos nerfs, parce qu'on sait bien qu'effectivement l'Allemagne consomme à 50% ce gaz.
55%.
Autour de la moitié. Disons, pour mettre tout le monde d'accord. Et puis, quant à la France, c'est autour de 18%.
Bon,
c'est donc quand même une part énorme. C'est ce qui changera ou non notre chauffage de l'hiver prochain. Bon. Et là, je trouve que Poutine, il a dit « je vais couper », mais il a pas, à ma connaissance, il n'a pas encore coupé.
Non.
Il joue. Alors, est-ce qu'il y a une diplomatie pétrolière, une diplomatie gazière qui s'est activée dans la coulisse pour qu'il ne nous coupe. C'est très intéressant de voir s'il coupe le robinet ou pas.
Parce que c'est presque une dissuasion. Hein. C'est presque une dissuasion.
C'est la dissuasion, absolument.
Il y a le bouton nucléaire et le bouton du gaz.
Oui, c'est ça. Il ferme le gaz, il n'a plus d'argent pour entretenir son armée qui est en difficulté. Et il ouvre. Donc, c'est vraiment, on voit très bien que c'est le rouble pour opposer au gaz. Parce que, mais alors, si on enlève le gaz, alors la Russie. Alors, peut-être que ce serait d'ailleurs assez bien qu'on réduise les dépenses de gaz en Russie pour ne pas aider leur armée. Mais enfin, on est loin de ça. On est loin de ça.
C'est cher tous les jours. C'est cher.
Moi, je crois aussi que là, pour le coup, cette décision-là visait d'abord son opinion publique, parce que depuis le début de la guerre, le rouble a chuté de 40%. Et là, en annonçant cela publiquement, comme par hasard, le rouble est déjà remonté de 12%. Donc, c'est déjà pour rassurer son opinion publique. Bon,
sauver la monnaie.
Mais déjà, les Européens ont dit qu'il y avait des contrats, qui étaient des contrats, qu'ils continueraient à payer en dollars et en euros. Alors, je ne sais pas, on mélangera les... mélangera le rouble et le dollar, ça fera le roublard, je ne sais pas, il faut éventuellement... Je sais pas.
Le roublard.
Oui. Mais je veux dire, ça, rien ne changera pour l'instant. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Poutine, qui a pris ses désirs pour des réalités, qui n'a pas vu les choses, qui était agacé par l'OTAN, mais encore plus agacé par le fait que les Ukrainiens, ils le voient depuis 2014, ils sont heureux de vivre en démocratie, ils ont la liberté, ils vivent mieux... Et c'est un virus qui peut être inoculé dans sa population. C'est pour ça qu'il ferme tout. On ne peut plus rien dire, on ne peut rien écouter, qu'il ferme encore les écoutilles. Pourquoi ? Parce que c'est un virus. Des gens qui, depuis des années, c'est vrai, ils ont tout subi, le stalinisme, tout. Mais là, tout d'un coup, s'ils avaient envie, s'ils en avaient marre de la pauvreté, s'ils en avaient marre de l'oppression politique, c'est ça qui le menace. Pour l'instant, c'est le virus de la liberté. Oui, c'est le virus de la liberté qui est bien plus important que le Covid, vous voyez, qui a déjà fait des ravages en Russie. C'est ça qu'il il ne sait pas comment en sortir, Poutine. Donc, il va continuer.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Michel Cotta.
Vous êtes d'accord ?
Non, je ne suis pas d'accord.
C'est un débat.
Je pense qu'il ne se sent pas. D'ailleurs, je pense qu'il sait très bien où il va. Tu as raison, la démocratie en Ukraine, ça doit beaucoup l'énerver. Mais en tout cas, il pense qu'il y a une grande partie, et c'est vrai, il y a une grande partie de sa population qui lui donne encore raison. Alors, je ne fais pas allusion au sondage à 80% parce que je n'y crois pas.
Et tu ne crois pas que les sondages là sont truqués, là. Autant... Tout est truqué en Russie, franchement.
Mais, enfin, autant qu'on le voit, on ne voit pas de révolte à Saint-Pétersbourg, on ne voit pas de révolte à Moscou.
Ils sont mis en prison dès qu'ils sont révoltés,
justement.
Ou ils sont tués.
Par conséquent, ils sont minoritaires.
Elle a raison. C'est historique, c'est séculaire. Le peuple russe est derrière ses dirigeants quand la nation, la patrie est menacée.
Guerre et paix,
Tolstoï, en effet. Bon, là, c'était à l'époque Napoléon. Bon, non, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ça n'est pas le peuple qui peut destituer Poutine. Rappelons-nous 62, lorsque Khrouchtchev a fait le bras de fer avec le président Kennedy qui venait d'arriver au pouvoir et qu'il a perdu. Il a été destitué 4, 5 mois, 6 mois après. C'est l'appareil lui-même qui peut de toute façon influencer et faire partir Poutine. Mais Poutine est quand même dans une impasse à l'heure actuelle par rapport à l'Ukraine.
Fin du débat des grandes voix. Merci à tous, à la semaine prochaine et on dit bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes
voix.
Alors ce matin, on va se réchauffer avec la cuisine algérienne. Le Ramadan commence ce soir. Eh bien, on va faire le tour du banquet qui casse le jeûne. Et le journaliste et romancier Xavier Demoulin nous rejoint avant midi. Il rate toujours ses omelettes. Alors on va lui donner un cours. À tout de suite.
Bonne émission Laurent.